Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. Alors, le papier à l'endroit, c'est mieux. Ben, merci pour votre présence très nombreuse pour ce nouveau mardi de l'égalité. Je tiens à remercier la mission Égalité et le service culturel pour cette programmation, ainsi que l'équipe technique du CREA pour leur accompagnement. Alors, comme pour les précédents rendez-vous, cette rencontre est filmée et sera prochainement mise en ligne sur l'Erdu afin d'être accessible au plus grand nombre. Ce soir, nous nous retrouvons pour une table intitulée « Pour Britney, Elisabeth et les autres », l'enfermement psychiatrique féminin au prisme littéraire. Nous avons le plaisir d'accueillir deux autrices dont les ouvrages interrogent de front l'enfermement des femmes en structure psychiatrique et plus largement le contrôle des corps et des esprits au nom du soin. Louise Chenevière et son livre « Veiller sur elle » et Adèle Yon, avec mon vrai nom et Elisabeth, proposent des récits qui donnent voix à celles dont la parole est trop souvent disqualifiée ou confisquée. Ce mardi de l'égalité s'inscrit dans l'engagement de l'Université Rennes 2 pour l'égalité, la lutte contre les discriminations et contre toutes les formes de violence, notamment sexistes et sexuelles. Ces rencontres invitent chacun et chacune à croiser leurs regards pour mettre en lumière des expériences d'inégalité et ouvrir des espaces de débat. En interrogeant ce soir les liens entre enfermement psychiatrique, normes de genre et pouvoir médical, il s'agit aussi de questionner la manière dont nos institutions participent à la production ou à la contestation de ces violences. Ce mardi entre par ailleurs en résonance avec le festival littéraire Jardin d'hiver des Champs Libres qui vient de se terminer dimanche. Et puis, notre partenaire, la librairie Comment Dire, tient les ouvrages de Louise Chenevière et d'Adèle Yon à votre disposition. La table ronde de ce soir est animée par Cécile Cunin, doctorante en histoire de l'art, et Gaëlle Debeau, maîtresse de conférences en littérature comparée ici dans notre université. La discussion permettra de revenir sur les contextes historiques, les archives et les témoignages qui nourrissent les livres de nos invités, mais aussi sur les enjeux contemporains. Comment écoute-t-on la parole des femmes psychiatrisées? Quel parallèle peut-on tisser entre l'enfermement psychiatrique et l'enfermement dans les normes de genre? Comment la littérature peut-elle devenir un outil de résistance, de réparation, voire de transformation sociale? Je remercie chaleureusement toutes nos invitées d'avoir accepté de partager leurs travaux et leurs réflexions avec nous. Et je vous souhaite à tous et toutes une très belle soirée. Je laisse la parole à nos intervenantes maintenant.
Merci, merci beaucoup Emmanuel. Et donc on va commencer cette rencontre. Bonsoir à toutes et à tous. Et merci beaucoup toutes les deux d'être présentes avec nous ce soir. Ça nous fait très plaisir. Je vais prendre le temps de vous présenter avant de vous poser les premières questions. Donc Louise Chenevière, tu es autrice, tu es aussi musicienne, tu fais de la musique. Et tu es là ce soir parce que tu es l'autrice de trois récits, tous trois parus chez POL entre 2019 et 2024. Comme La Chienne, d'abord, récit polyphonique qui donne la voix à des femmes ayant vécu des expériences traumatiques. C'est un résumé qui est très peu fidèle, en même temps assez fidèle. Enfin, voilà. Mausolée, texte très fort, journal ou lettre de séparation adressée par une femme à celui qui est parti. Et puis Pour Britney, là aussi texte très fort également, qui vient tout juste de sortir en poche chez Folio le 5 février, je crois, dont nous allons plus directement parler ce soir. Dans ce texte, tu t'adresses tout à la fois à Britney Spears, héroïne de ton enfance, à Nelly Arcan, écrivaine québécoise que tu découvres arrivée à l'âge adulte, et à la petite fille que tu as été et qui a appris à détester d'une certaine façon ce qui la rendait heureuse, c'est-à-dire cette figure de Britney, sa joie, son énergie. Ces figures de Britney, de Nelly, subissent dès leur plus jeune âge une sexualisation exacerbée, c'est ce dont tu parles dans ton texte, sexualisation exacerbée de la part de la société patriarcale dans laquelle elles évoluent, dans laquelle elles performent. Et dans ton texte, tu interroges la façon dont cela a pu les conduire à une forme de folie, mais aussi comment on s'empare en tant que fille ou en tant que femme de ces modèles paradoxaux. Adèle Yon, quant à toi, tu as fait paraître en 2025 aux éditions du Sous-Sol « Mon vrai nom est Elisabeth », livre qui a connu et qui connaît toujours un très grand succès et qui a reçu de nombreux prix. Dans ce récit, tu reviens sur ton aïeul, Betsy, Elisabeth de son vrai nom, et sa trajectoire de vie et sa trajectoire psychiatrique, les deux. Peut-être parce qu'elle n'acceptait pas le cadre social imposé, se marier, avoir des enfants très rapidement notamment. Elisabeth est internée après ses premières grossesses en asile psychiatrique et n'en ressortira qu'après de très longues années. Tu interroges dans le récit que tu nous livres ici hein, ce diagnostic de schizophrénie qui est inscrit sur son dossier de façon un peu mystérieuse. Et tu reviens sur l'histoire notamment de la lobotomie qu'elle va subir pendant son internement, à la fois cette histoire qui lui est propre, intime, et l'histoire générale de cette pratique médicale. Ton livre est composé de plusieurs documents retrouvés dans les archives familiales, dans les archives officielles, mais il est aussi tissé d'un récit plus intime de ta propre trajectoire au sein de cette histoire familiale, de ces obsessions qui se transmettent de femme en fille, de fille en femme. Et peut-être la première question qu'on avait envie de te poser avec Cécile, c'était tout simplement de revenir un peu sur la genèse de ce projet, puisque, on le sait, hein, mon vrai nom est Elisabeth, c'est d'abord pour toi un travail de thèse, de recherche, spécifiquement de recherche-création, et puis qui réfléchissait à un corpus cinématographique au départ, donc Jane Eyre, Rebecca, qui sont des films adaptés d'œuvres littéraires, avec au centre des figures, ou au centre plutôt à la périphérie de ces œuvres, en fait, hein, des figures de femmes désignées comme folles et qui viennent hanter les vivants. Et toi, dans ton travail, tu expliques dans le texte hein, que tu as perçu une forme de coïncidence entre ces préoccupations de recherche et des préoccupations plus intimes. Et finalement, la question qu'on avait envie de te poser, c'est comment tous ces aspects-là se sont noués pour toi, comment on en vient à porter un tel projet de recherche et comment est-ce que, quelle différence y a-t-il, y en a-t-il une, entre le texte de la thèse, celui que tu as soutenu, le roman qu'on lit, le roman, c'est pas une bonne étiquette, le récit que l'on lit dans le livre, voilà.
Bonsoir. Je suis très heureuse de vous voir si nombreux, nombreuses ce soir. Merci pour cette introduction. Alors, le livre, moi, l'étiquette de roman ne me dérange pas. Hein. Je considère que le roman est plus défini par le travail de mise en forme que par des questions de fiction. Donc, voilà, je me l'approprie volontiers, mais je l'appelle le livre. Le livre et la thèse, c'est absolument la même chose. Il y avait simplement une centaine de pages en plus dans la thèse que j'ai ajoutées, mais a posteriori, qui sont vraiment une sorte d'épilogue où je retraverse un peu les résultats de ma recherche relativement aux différentes disciplines que j'ai croisées, donc en histoire de la psychiatrie, en cinéma, en histoire, en sociologie, etc. Mais sinon, c'est le même texte, et je défends vraiment ce livre comme un livre à la fois de recherche et de création, dans le sens fort des deux. La manière dont ce texte est né en même temps comme un livre, c'est-à-dire quelque chose que j'avais le désir de publier, comme une thèse, c'est-à-dire quelque chose qui se destinait à un public universitaire, ce qui est quand même la vocation, et scientifique, c'est quand même la vocation d'une thèse, un ouvrage que j'écrivais pour ma famille, puisque au fur et à mesure que j'avançais dans l'enquête, je rassemblais un certain nombre de documents, de preuves qu'il fallait aussi que je puisse leur remettre. Et c'est complètement indissociable. C'est-à-dire que voilà, il n'y a pas à aucun moment, quand l'écriture de ce livre a commencé, c'était toujours déjà les trois à la fois, si vous voulez. Si la question c'est à quel moment est-ce qu'on peut décider que ce type d'enquête puisse aussi être une thèse, ça m'est venu effectivement, alors pour plein de raisons, mais peut-être si on le lit avec cette question dont tu parles, qui est celle des doubles fantômes. Alors au départ, c'est effectivement, donc moi j'ai fait des études en philosophie et puis en cinéma. Au départ, mon projet de thèse, c'était même pas sur les doubles fantômes, en fait, c'était encore plus éloigné, mais quelque part, peut-être que vous pourrez comprendre la proximité, aussi ça dit quelque chose de l'écriture finale. C'était une thèse sur le montage tel que Eisenstein le proposait ou proposait de l'inventer sur un film qui devait se dérouler intégralement dans un gratte-ciel de verre et dans lequel on aurait pu voir des scènes différentes se dérouler en même temps grâce à la transparence du verre. Donc ça avait vraiment rien à voir avec le sujet, en tout cas la thématique du livre. Et le double fantôme, c'était un motif cinématographique qui s'est mis à m'obséder complètement en parallèle dans les cours de cinéma que je donnais, sans que je comprenne jamais véritablement pourquoi. Et pendant un certain temps, j'ai avancé dans l'enquête sur Elisabeth, qui au départ n'était pas du tout une question d'écriture, mais était vraiment une question de nécessité. C'est-à-dire, je suis dans une situation personnelle très compliquée, je dois m'en sortir, et je ne sais pas pourquoi, j'ai l'intuition qu'il y a l'enquête sur le destin de cette femme qui va permettre de comprendre et de me sortir de cette position dans laquelle je me trouve. Mais très longtemps, j'ai pas fait le lien entre l'histoire de cette femme pour moi et dans ma famille, et ces motifs de double fantôme qui sont, comme tu le dis, donc Jenner, Rebecca, c'est-à-dire des motifs dans lesquels ce sont des parcours d'apprentissage au féminin où la jeune protagoniste apprend à se construire comme bonne épouse et comme bonne mère en s'opposant à un personnage féminin horrifique qui est tout ce qu'elle ne doit pas devenir, quoi. La folle, la menteuse, celle qui veut pas d'enfant, la femme adultère, etc., etc. Donc dit comme ça, évidemment, ça saute aux yeux, mais en fait, le comprendre, ça m'a déjà pris un certain temps, et quand je l'ai compris, c'est une raison parmi d'autres, mais en tout cas celle-ci, là-dessus, quand je l'ai compris, il est devenu évident que cette enquête sur Elisabeth était un travail de recherche qui pouvait se justifier comme tel, parce que c'était vraiment une manière de prendre dans sa source intime une question de recherche qui était une question scientifique, finalement, une question cinématographique. Et ça, c'est une posture de recherche que je défends absolument et que je continue à défendre, qui est le fait d'en passer par l'interrogation de pourquoi on cherche, en fait. Qu'est-ce qui nous anime en tant que chercheuse, en tant que chercheur? Qu'est-ce qui s'émeut en nous quand on est face à une question de recherche? Et pourquoi, enfin, et qu'il est nécessaire, en fait, de porter les yeux sur ce désir-là, ce désir premier, avant ou en même temps que l'on se lance dans un processus de recherche plus large. Et donc, d'une certaine manière, voilà, c'est ma manière de le faire, en quelque sorte.
Mais c'est intéressant parce qu'il me semble que ce que tu viens de dire là sur comprendre ce qui anime la motivation de la recherche, je suppose, Louise, que tu peux tout à fait te le réapproprier aussi sur le fait d'avoir des sujets comme ça qui nous travaillent et qu'on a envie de travailler. Et j'ai l'impression que le geste n'est pas très différent. Bon, voilà, si tu veux, toi aussi, Louise, revenir un petit peu pour nous sur tes œuvres, puisque pour Britney, c'est ta troisième œuvre publiée, qui s'inscrit, je trouve, vraiment dans la lignée des précédentes, avec ce geste d'adresse qu'on retrouve entre Mausolée et Pour Britney, et puis la question, la question de la façon dont la société patriarcale façonne les femmes, les condamne aussi d'une certaine façon à des destinées qu'on peut estimer parfois tragiques. Ma question serait peut-être un peu double. Comment, d'une part, tu situes Pour Britney dans ce premier panorama de ton œuvre, et d'autre part aussi, comment est-ce que ce que vient de dire Adèle sur les motivations intimes en lien avec un travail de recherche par l'écriture se noue dans ton travail à toi?
Alors, moi, j'ai... Ouais. Bonsoir. Moi, j'ai jamais pensé que, de toute manière, une quelconque forme d'art ou de philosophie pouvait être déliée de l'intimité de l'autrice. Enfin, c'est Nietzsche qui a dit ça il y a très longtemps, qui dit que toutes les philosophies, en fait, répondent à des problèmes intimes. Donc, je pense que le problème est qu'on a posé une objectivité et une vérité qui étaient, en fait, ultra déterminées. Et je pense que nos travaux et à toute personne qui se sait située partent forcément de cet endroit-là, d'un endroit intime. Moi, mon travail part aussi de là, toujours. C'est-à-dire que tous mes textes sont des réponses à des questions intimes, des nécessités. Il n'y a jamais de séparation entre les textes et la vie. C'est pour ça que je ne suis pas très bonne à... Enfin, je pourrais peut-être écrire sur commande, mais ça ne marche pas aussi, parce que pour moi, il y a quelque chose quand même de comment on affronte les questions. Donc Mausolée, qui était un livre sur la rupture amoureuse, bah, j'ai eu besoin d'aller relire tous les grands romans d'amour, de lire toutes les philosophies sur l'amour. Donc je mène aussi un travail vraiment de recherche en amont. Par contre, c'est vrai que j'ai tendance à, entre guillemets, l'effacer dans mes textes. C'est-à-dire que ça se manifeste d'une autre manière, comme la chienne, par exemple. J'avais énormément lu la Bible pour essayer de comprendre, en fait, de quelle source venait aussi cette aliénation des femmes, qui en fait est toujours la même. C'est-à-dire, vous prenez Britney Spears, c'est toujours la question de la virginité. Enfin, c'est la même chose. Donc voilà. Et donc tous les titres des chapitres étaient tirés de la Bible. Ça, par exemple, je pense que personne l'a vu et je l'ai pas. C'est pas quelque chose que. Donc c'est un peu le même genre de processus, au sens où il y a quelque chose, une nécessité que je ressens, que j'ai besoin d'exprimer. Il y a ce travail de recherche et ensuite il y a le travail d'écriture. Et pareil, j'ai pas de mots particuliers. D'ailleurs, pour Britney, on sait pas très. Enfin, on dit, ouais, est-ce que c'est un essai, est-ce que c'est un récit, je sais pas bien, mais j'ai pas vraiment besoin de savoir ou de séparer. On en parlait avant, dans la littérature anglo-saxonne, ce sont des formes qui existent beaucoup plus. Par exemple, je pense à Maggie Nelson, c'est quelqu'un qui se pose pas ces questions-là. Voilà, moi je me sens assez proche de ça, donc déjà dans la forme, ce qui donne une plus grande liberté. Et pour Britney, c'est la première fois où j'ai vraiment parlé en mon nom Et je pense que je ne reviendrai pas en arrière, c'est-à-dire où je me suis vraiment, pour le coup, défait des restes de fictionnalité qu'il y avait. Pas de mise en forme et de travail, parce qu'évidemment, c'est toujours la question complexe. C'est pas parce que c'est pas un récit fictionnel qu'il n'y a pas un énorme travail de mise en forme. Et d'ailleurs, l'image qui ouvre pour Britney, alors c'est assez drôle, parce que je parle d'une photo que j'aurais retrouvée enfant dans un carton. Cette photo n'existe pas. Mais au début de la promo de Britney, en fait, partout où j'allais, les gens voulaient voir cette photo. Et du coup, je me suis sentie comme une imposteuse. On dit quoi ? Imposteuse ? Impostrice ? Bon, enfin, voilà. Ça n'existe pas, peut-être. Imposterice. Et je me disais, mais merde, ils veulent voir la photo. C'est horrible, je peux pas dire qu'elle n'existe pas. Alors qu'en fait, c'est une image littéraire dont j'ai eu besoin. Elle aurait pu exister. Donc, on revient à la question du vraisemblable, qui est une question littéraire qui existe depuis toujours. Mais donc, il y a un travail de mise en forme. Néanmoins, c'est vrai qu'avec ce texte, c'est la première fois où je parle en mon nom. Et c'est vraiment, je pense, parce que pour moi, il s'agissait d'aller défendre ces deux femmes, Nelly Arcand et Britney Spears, et que j'avais le sentiment que je ne pouvais pas le faire sans me mouiller moi aussi dans cette histoire. Je ne pouvais pas les prendre comme de simples objets. Et j'avais besoin de dire de manière intime pourquoi Britney avait été si importante pour moi dans ma construction et pourquoi Nelly Arcand était si importante et pourquoi ces femmes nous avaient été confisquées. Donc voilà, c'est la première fois où j'ai parlé en mon nom et je crois que ça me fait quoi ton titre d'ailleurs, mais que maintenant je vais vraiment continuer comme ça.
Alors merci beaucoup pour cette parfaite transition, parce qu'on voulait justement revenir sur les titres et l'espèce de coïncidence, qui est vraiment une coïncidence hein, pour le coup, mais des titres qui exhibent des prénoms. Mon vrai nom est Elisabeth pour Britney. On aurait pu faire figurer également le nom de Nelly, le prénom de Nelly en l'occurrence. Et en fait, on s'est demandé avec Cécile quelle signification on pouvait voir derrière ce geste d'exhiber, alors dans le bon sens du terme, hein, ce nom ou ce prénom sur la couverture. Elisabeth, mon vrai nom est Elisabeth, par exemple, c'est tiré d'une des lettres d'Elisabeth qui est surnommée par l'intégralité de sa famille Betsy. Voilà, je trouve qu'il y a un geste aussi dans le fait de mettre, mettre cette phrase-là en titre du texte. Et puis, on s'était demandé aussi pour toi, Louise, finalement, pourquoi Britney et pas Britney Spears ? Pourquoi que le prénom ? Enfin, voilà, qu'est-ce que vous auriez à partager avec nous sur ce choix d'exhiber le prénom comme ça de vos héroïnes, si on veut, sur la couverture, aux côtés du vôtre ?
Mais je serais intéressée de savoir d'ailleurs si toi le titre, je crois que c'est un texte que tu as écrit assez rapidement, et je ne sais pas si le titre a tout de suite été là pour toi. Oui ? Ok. Alors moi, absolument pas, et ça a été vraiment une très longue écoute, en fait, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, et ça ne me ressemble pas du tout. J'ai commencé à écrire plein de trucs que je n'ai jamais fini, mais qui avaient vraiment des titres très fixes. Et là, c'était vraiment l'inverse. C'est-à-dire que j'avançais. Le texte n'en finissait plus de finir et je n'avais pas de titre. Et ce titre m'est venu d'une manière que j'aime bien raconter, parce que c'est vraiment la particularité de la relation que j'ai eue avec Elisabeth, non mystique, hein, pendant l'écriture du livre. C'est que pour les personnes qui ont lu le livre, vous savez qu'il y a une correspondance, enfin des morceaux de la correspondance qu'elle entretient avec André, mon arrière-grand-père, quand il est encore son fiancé en 1940. J'en ai reproduit peut-être une trentaine de pages en tout. En réalité, il y a 200 ou 300 lettres, donc c'est une quantité extrêmement importante de lettres que j'ai pas du tout pu lire tout de suite au moment où ma grand-mère me les a données, mais que j'ai vraiment lu en continu pendant les 3 ou 4 ans qu'a duré l'enquête. Et donc c'était comme une sorte de ligne téléphonique, quoi, quelque part, avec le passé, avec l'au-delà, et c'est dans ces échanges que pour moi c'est inscrit ce que j'appellerais l'ironie ou l'humour d'Elisabeth. Alors ça tient à moi, hein, de regarder ça avec humour, parce que c'est plus proche de l'ironie tragique que de l'humour, hein. Mais c'est-à-dire que je lisais dans ces lettres tellement de phrases qui venaient ponctuer et commenter ce que j'étais en train de découvrir, que j'avais l'impression qu'elle commentait au présent ce que j'étais en train de vivre et de traverser par mon enquête. Et le titre, il est apparu comme ça, c'est-à-dire que dans ce moment où vraiment je sentais que j'avais déjà senti ce moment magnifique où le texte est là et où je sais qu'il n'y aura pas rien et que il y aura, même s'il n'est pas publié, même s'il n'est pas lu, pour moi, il y aura un texte. Et là, replongeais, comme je le faisais souvent, dans des morceaux de sa correspondance, je lis ou je relis, difficile de le savoir, cette lettre, ce PS, ce post-scriptum d'une lettre qu'elle écrit à André. répondrai, où elle dit PS, savez-vous que mon vrai nom est Elisabeth? Et là, ça me frappe comme une évidence, mais donc d'une certaine manière, c'est elle qui me donne ce titre. Et c'est elle. Et donc, voilà, et déjà, c'est l'histoire de ce titre. Et ensuite, bon, Elisabeth, je ne souligne pas l'importance qu'il y avait à justement remettre cette véritable identité. Véritable au sens où c'est elle qui se la donne. C'est pas tant que ce soit son prénom civil par opposition à son surnom. C'est le fait que c'est elle qui dise mon vrai nom, c'est ça. Et finalement, c'est le seul acte de pouvoir qu'elle a sur sa propre identité pendant toute cette histoire. Donc il y avait ça. Et il y a aussi une raison peut-être plus, enfin qui tient plus à mon intention, qui est que quand j'ai passé un an rien qu'à m'empêtrer dans l'organisation de ce livre. Je ne savais ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait que c'était à la fois un livre de littérature, une thèse et un texte que je destinais à ma famille, faisait que je ne parvenais pas à trouver la forme juste et enfin j'étais égarée dans tous les possibles quelque part. Et au bout d'un an, vraiment de souffrance assez intense d'écriture hein, de mon côté, je me suis dit bon écoute, ça suffit maintenant. Enfin finalement, qu'est-ce que tu veux dire avec cette histoire et qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Et là, je me suis dit bah en fait, j'ai été transpercée par la souffrance de cette femme pendant les 3 ans où elle m'a accompagnée. Et je crois que s'il y a une seule chose qui doit compter, c'est qu'elle ait une place quelque part. Ce livre, c'est son mausolée, j'aime vraiment beaucoup ce mot, c'est sa tombe, surtout quand on sait que sa tombe, c'est avec son mari au cimetière, dans une pierre tombale là, en région parisienne. Donc non, ça ne va pas, il faut un autre espace possible, il lui faut une autre place en fait. Et donc je veux que ce soit ça. Et donc j'ai pris dans la masse de choses que j'avais, j'ai pris tous les documents d'archives sur Elisabeth, qui parlent d'Elisabeth, donc les archives institutionnelles ou les archives familiales. Je les ai organisées de manière chronologique et ça m'a fait comme une Elisabeth de papier en quelque sorte, qui est venue vraiment structurer mon texte. Et donc quelque part c'est son épitaphe aussi, mais c'est sa voix. Mon vrai nom est Elisabeth, c'est ce que j'écrirais sur sa tombe aujourd'hui si je pouvais la déplacer et la mettre ailleurs.
Et pour Britney?
En tout cas, ça fait écho. Je pense que quand même, quand le titre est là, le livre est là. Enfin, il y a un truc un peu... Il y a un moment où ça apparaît, quoi. Et on se dit, c'est ça. Et moi, effectivement, pour celui-là, c'est pas toujours le cas. Mais pour celui-là, il est venu tout de suite parce que c'était vraiment... En fait, moi, j'ai commencé à écrire ce livre quand j'ai lu les mémoires de Britney. Et je les ai lues en une nuit, par hasard. Et à l'instant où j'ai fini, j'ai su qu'il fallait que je fasse quelque chose parce que je me suis dit, mais... en fait, non seulement le monde entier, mais que moi, je l'avais trahi, vraiment. Et qu'en fait, je me devais de lui rendre quelque chose. Et aussi, j'ai tout de suite su, un peu pour les mêmes raisons, que je voulais inscrire son prénom là, parce que c'est pas là qu'on la met d'habitude, c'est pas sur un livre de littérature. Et en fait, pour moi, il y avait un geste aussi, parce que même si on parle beaucoup d'elle aujourd'hui, on continue à en parler comme, je sais pas, d'une pop star déchue, ou d'une victime, ou d'une icône, de je sais pas quoi... Moi, j'avais vraiment envie de lui donner une place différente. Et voilà, Britney, c'est, surtout sur les couvertures de POL un peu sérieuses, c'est pas l'endroit juste. Mais moi, j'avais une sorte de plaisir, déjà de jouissance d'enfant aussi, de me dire, OK, je fais ça. Et je transgresse un petit peu un ordre qui voudrait que ce soit pas à cet endroit-là. Ce qui d'ailleurs n'a pas été toujours facile parce que je me posais la question au début de comment parler d'elle pour pas en parler comme les médias en parlent et tout ça, que j'étais plongée moi dans les, pas dans les archives institutionnelles mais dans les articles de presse. Donc il y avait tout ce discours vraiment pop star, tout ça que j'ai essayé de pas. Et donc j'ai eu l'impression avec ce livre de la déplacer et c'est venu tout de suite parce que je me suis dit ouais, c'est pour elle, c'est vraiment en son nom que je veux parler. Et après, la juste question qu'il y a eu, c'était est-ce que je mets aussi, et pour Nelly, parce que dans le livre, je parle aussi de Nelly Arcand, qui est donc une femme qui s'est, une très grande autrice, en fait, qui s'est suicidée pour des raisons évidentes, c'est-à-dire parce qu'elle n'a pas été entendue et parce qu'elle a été ramenée à son corps en permanence et que les textes qu'elle a écrits, notamment sur le viol, ont été pris comme des textes érotiques, par exemple. Mais après... il y a eu plusieurs choses en jeu, je pense. Maintenant, j'y pense, c'est qu'en fait, Britney, je l'ai vraiment connue. J'ai moi, en tant qu'enfant, une relation intime avec elle, vraiment très forte. Nelly, en fait, quand je la découvre, elle est déjà morte. Donc, il y a quelque chose aussi, je pense, qui était vraiment plus juste pour moi dans cette adresse à cette femme qui symbolise aussi mon enfance et aussi peut-être l'idée que elle est quand même encore vivante. Et donc, voilà, que j'espère que... Enfin, bien sûr, ce livre va a priori pas lui parvenir, mais dans l'idée, c'est un témoignage d'amour et qu'il y a une forme de réparation, peut-être.
Et vous avez dit à plusieurs reprises toutes les deux que vous vous inscriviez plutôt dans cette étiquette de la non-fiction, même si l'étiquette roman fonctionne aussi parce que c'est très malléable comme forme, le roman. Ce qui nous a intéressé, c'est qu'on voit bien que Britney, Nelly, Elisabeth, elles sont prisonnières de fiction, d'une certaine façon, notamment d'une certaine fiction de la féminité, de chemins qui sont ceux de la féminité, de chemins incontournables, la question de la maternité, par exemple, qu'elle soit redoutée pour le cas d'Elisabeth ou qu'elle soit ardemment désirée pour le cas de Britney, et dans les deux cas, mal vécue. Et d'une certaine façon, on a eu l'impression que vos textes cherchaient à discuter ces fictions, ces récits qui s'imposent aux trajectoires de femmes et venez un peu réfléchir à cette idée qu'on serait peut-être en tant que femme malade, mais pas que en tant que femme d'ailleurs, hein, mais malade de ces fictions qui nous enferment. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez cherché à travailler?
Elles sont prisonnières de ces fictions, elles sont aussi prisonnières des étiquettes, en l'occurrence. Donc moi, j'échangerai jamais une étiquette pour une autre, hein, personnellement. Et je me suis jamais revendiquée d'autres choses par opposition à roman ou non-fiction, etc. Enfin, je suis très mal à l'aise avec le fait de classer. C'est une question qu'on me pose souvent, parce que, d'ailleurs, je suppose que toi aussi, où est-ce qu'on classe ce livre dans les librairies ? Gros problème commercial. Oui, mais en fait, c'est un problème commercial, c'est pas un problème littéraire. Je dis plus ou moins ironiquement, je remplace pas une étiquette par une autre, mais parce que ça a été vraiment un principe d'écriture très fort pour moi, c'est-à-dire que il y a une chose dans laquelle je voulais pas tomber, mais c'était même pas une décision que j'avais prise rationnellement, c'était une intuition très forte et je m'en empêchais tout le temps dans l'écriture, c'était de remplacer toutes les manières dont elle avait été définie au cours de sa vie par différentes institutions, par différentes personnes, par une autre manière. C'est-à-dire que aucun moment, je ne pense que j'atteins ou je dis la vérité sur Elisabeth. La seule personne qui est en droit de dire vrai et vérité dans ce livre, c'est elle et c'est dans le titre. Et je n'ai aucune prétention à accéder à quoi que ce soit comme une définition de cette femme. Et je pense que tout le livre est construit justement pour essayer de ne pas, enfin, d'ouvrir à l'infini kaléidoscope de son identité en fait, plutôt que à quoi que ce soit qui l'arrête dans un mouvement ou qui la pose quelque part, et c'est une attention dont j'aimerais profondément que les femmes soient couvertes en général.
Moi, c'est vrai que je suis devenue un petit peu viscéralement anti-fiction, mais je sais pas si c'est pour dire non-fiction ou quoi, mais en tout cas je sais que, par exemple, mon premier livre, Comme la chienne, j'avais vraiment envie que ce soit considéré comme de la littérature. C'est-à-dire, j'ai quand même été dans un lycée, on m'a enseigné la littérature classique, voilà, j'avais quand même des questions de forme, et je voulais vraiment qu'on me prenne au sérieux. Donc j'ai fait de la fiction, c'est-à-dire que, voilà, et j'ai bien fait attention toujours à ne pas être réduite à justement un livre féministe, un livre témoignage, etc. Donc je revendiquais cette fiction, mais ce que j'ai réalisé aussi, c'est que ça permettait aux gens de mécomprendre. C'est-à-dire, en fait, le fait de ne pas totalement assumer ma parole permettait, donc un peu moins violemment, mais dans le même cas que Nelly, mon livre a été classé parmi les livres pour faire grimper la température dans un célèbre journal, comme la chienne, qui parle essentiellement de viol, d'inceste, d'anorexie. Parce que d'un coup, des vieux gars, comme je les appelle, m'ont associé à une sorte de tradition bataillenne et tout ce qu'en fait je récuse et qui, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose chez moi aujourd'hui qui est vraiment réticente à la fiction et qui a l'impression que finalement, déjà même pour moi, il y a une dimension vraiment émancipatrice à prendre la parole en mon nom, c'est-à-dire en mon nom de femme, etc., en me cachant pas aussi. Mais aussi une dimension nécessaire pour pas qu'on vienne me dire justement après, parce que moi on me l'a dit, hein, pour Comme la chienne, c'est mais où est-ce que t'as été chercher tout ça, et je suis là, ça m'est, enfin ce sont des choses qui me sont arrivées, mais c'est vrai que j'ai eu besoin de les fictionnaliser. Alors je sais pas si je récuse complètement cette forme c'est aujourd'hui j'en suis vraiment à un endroit où j'ai l'impression que c'est pas la chose juste à faire pour moi aujourd'hui que de fictionnaliser. Et d'ailleurs, je lis très peu de fiction. C'est, voilà, c'est quelque chose qui me... Par exemple, Joyce Carol Oates, j'ai essayé de lire. Bon, c'est vraiment des choses qui... Alors, j'adore lire son journal, mais il y a quelque chose où, en fait, j'y crois pas, j'y crois plus. Mais c'est peut-être juste parce que je vieillis, je sais pas.
Mais justement, pour prolonger un peu la question précédente, mais sous un angle un peu différent, on s'est aussi posé la question de la place des images, justement. Donc, Louise, t'en as un petit peu parlé à propos de cette photo qui, en fait, n'existe pas. Donc, je vais essayer de reformuler un peu ma question. Mais il y a quand même, même si cette photo est fictive, il y a quand même dans vos deux récits des images qui hantent. Enfin, vous êtes hantée par des images et donc... Adèle, par exemple, c'est donc cette photo de ton arrière-grand-mère qui ouvre presque le récit. Et donc, Louise, cette photo de Britney Spears sur cette fameuse pochette d'album qu'on connaît tous et toutes. Mais c'est par exemple aussi les photos de couverture des romans de Nelly Arcan ou encore ces images de Britney Spears la tête rasée. Et donc, du coup, on s'est demandé, ces images en fait qui hantent, quelle a été comment s'est noué en fait, comment se sont noués vos récits autour de ces images, c'est-à-dire comment est-ce que c'est, est-ce qu'il y a une forme d'identification, au contraire de rejet, ou un besoin de peut-être se réapproprier ces images, parce que une image, ça dit beaucoup de choses et en même temps, ça dit rien, peut-être comme une étiquette, justement, comme peut-être l'étiquette de schizophrénie. Est-ce que ces images ont été vous ont aussi hanté tout au long de l'écriture et comment ça s'est joué à ce niveau-là?
Vas-y. Moi, je pouvais pas trop y échapper au sens où Britney Spears, quand même, elle n'est qu'image, mais c'est pas vrai. Mais j'avais besoin. En fait, justement, moi, ce qui m'intéressait, c'était qu'est-ce qu'il y a derrière cette image, et je voulais parler d'elle au-delà des images, mais pour ça, il me fallait les retraverser. Et en fait, c'est vrai que quand on les re-regarde, c'est fou. C'est-à-dire que j'ai en tête plein d'images d'elle et qui sont vraiment qui me hantent, justement, aussi, parce que des images où elle est très belle, très jeune, mais en fait, on voit déjà ce qui va se jouer. Mais je pense que dans mon cas, c'était vraiment la question de regarder les images que j'avais déjà vues enfant, mais avec 20 ans de recul et avec justement le savoir de sa parole à elle déjà, qui a eu le courage de parler et qui en fait nous dit ce qu'il y a derrière ces images et qu'en fait on aurait dû deviner parce que c'est toujours comme ça derrière ces images, évidemment. Et dans le cas de Nelly, je pense que c'est vraiment important de se questionner sur comment nous on porte une responsabilité dans la manière dont on regarde les images, parce que dans le cas de Nelly Arcan, ce que je raconte, c'est que en fait, les éditeurs ont choisi de la mettre en scène sur la couverture de ses livres comme cette image dans laquelle elle était prisonnière et qui a fini par la tuer. C'est-à-dire qu'il la représente en bimbo, qui est une persona qu'elle a vraiment incarnée, mais qui est la raison pour laquelle elle finit par se tuer, c'est qu'en fait, elle n'arrive pas à dépasser ce corps et qu'on l'y renvoie toujours. Et donc, vous avez deux images d'elle où à chaque fois, ces gros seins refaits dont elle parle beaucoup sont mis en avant, et notamment une image où elle pleure, voilà. Et je sais que moi, à chaque fois, en passant devant ces livres, je me disais, ça peut pas être intéressant. C'est exactement ce que ces images me faisaient penser. Et donc là, il y a un double jeu, c'est-à-dire à la fois les éditeurs qui cherchaient à la vendre, donc une question commerciale avec cette image, mais aussi comment moi, j'avais intégré... qu'une femme ayant cette image-là ne pouvait pas produire un texte intéressant. Et donc, ça, vraiment, ce livre, ça, je l'ai écrit très vite, mais ça a été un moment de condensation pour moi, de m'enlever, moi, des choses que j'avais dans les yeux, en fait, qui me faisaient juger encore des femmes et qui faisaient aussi que moi, j'ai passé mon adolescence à grandir en essayant de ne pas ressembler à ce genre de femme. Et donc, en me cachant, et donc en essayant et donc en perdant, ce que j'ai dit dans le livre, un certain rapport aussi à une jouissance possible qu'il y a à jouer avec l'image, qu'on soit un garçon ou une fille. Voilà, donc c'est vrai que ce livre-là est hanté de ces images, puisque je les raconte beaucoup. Et je pense que quand même, justement, il y a un pouvoir à raconter les images qui fait qu'on peut, essayer de dire autrement, de dire regardez ce qu'il y a derrière. Ouais.
Et ouais, ce que tes deux exemples là, montrent bien, c'est, enfin, tu le dis d'ailleurs, c'est la manière dont une même image augmentée D'un savoir que l'on finit par avoir sur ces images, qui tienne à notre propre évolution ou à une enquête effective sur ces personnes, transforme en profondeur le regard qu'on porte sur ces images. Et là-dessus, moi, j'ai une anecdote sur mon livre qui est exactement l'illustration de ça. Donc, il y a effectivement une photo qui traverse tout le livre, qui est, je suppose, celle que mon grand-oncle laisse derrière lui au moment de son suicide, celle que je trouve, moi, dans une chambre chez mes grands-parents, que j'avais trouvée quelques mois auparavant. C'est la photo, la seule photo d'Elisabeth âgée. Enfin, en fait, même la seule photo d'Elisabeth après son opération. Et en fait, ce qui est fou, c'est que un moment, j'avais complètement fini mon enquête. J'ai fait tomber mon téléphone portable. Donc, on était en 2024, quoi. Non, attendez, fin 2024, milieu 2024. J'avais déjà fini le livre et l'enquête. Et c'est ça. J'avais fini l'enquête, mais pas l'écriture. Pardon. Fin 2023. C'est bon, ça me revient. Je fais tomber mon téléphone portable et là, la coque se sépare et il y a un petit carré blanc qui sort de mon téléphone. Je le prends, je le ramasse et je me rends compte que c'est une photo d'identité d'Elisabeth âgée. Et vraiment, je la regarde et c'est comme si je n'avais jamais vu cette photo avant, tellement je vois tout. Tout à coup, je vois les trous de chaque côté de son crâne, je vois le pansement qu'elle a sous le menton et qui parle du cancer qu'elle a eu à la fin de sa vie. Je vois son regard, je vois des choses dans son regard qui sont une sorte de mélange entre l'infinie détresse, le fait de dire qu'elle pardonne, mais que du coup elle accuse en même temps. Enfin, cette photo me saute au visage et s'imprime de manière irréparable en fait dans ma rétine. Et je me dis, mais que fait cette photo dans mon téléphone portable ? Comment est-elle arrivée là ? C'est forcément moi qui l'avais mise, ça ne pouvait pas être quelqu'un d'autre. Et en fait, plus tard, j'ai retrouvé une photo de cette photo que j'avais prise dans la chambre jaune, précisément, en 2021, donc 2 ans auparavant. Donc en fait, j'avais déjà vu cette image, mais je n'avais pas vu cette image, je n'avais pas compris cette image. Je l'avais regardée, mais je ne l'avais juste précisément pas vue. Et le livre, quelque part, l'écriture du livre, est justement, la fin de l'écriture du livre, parce que ça arrive assez tard, mais est hantée par cette question de comment le savoir transforme profondément notre vision des images. Et en même temps, je dis tout ça, et en même temps, cette photo n'est pas dans le livre. Et c'est très important pour moi qu'elle n'y soit pas, parce que raconter l'histoire d'Elisabeth, c'est pas raconter l'histoire d'une femme. Enfin, si j'ai décidé de le faire, c'est pas pour raconter l'histoire d'une femme, c'est pas pour raconter l'histoire d'une famille, c'est pour contester, combattre les mythes à l'endroit où ils s'écrivent aussi. Et donc, on a aussi besoin de ces mythes, on a aussi besoin de femmes mythiques, mais positives, auxquelles on peut s'identifier, qui combattent nos imaginaires à l'endroit où ils sont construits. Donc, en fait, souvent, les personnes me disent « Mais ah bon, il n'y a pas d'image d'Elisabeth dans le livre, il n'y a pas de photo d'Elisabeth, parce que j'ai tâché de construire une sorte d'Elisabeth mythique, en fait, ou possible, ou qui se construit avec toutes les autres représentations qui existent dans le livre, avec celles des autres femmes lobotomisées, et avec celles surtout de toutes ces Elisabeths qu'on a toutes dans nos familles, et que vous tramez, que vous tissez au fur et à mesure du récit dans vos représentations de cette femme. Et donc, elle existe dans un endroit, dans un endroit mythique, en fait. J'ai vraiment pas voulu faire document à cet endroit-là précisément.
Oui, et c'est intéressant parce que justement ça rejoint aussi la question de ce qui n'est pas montré, qui est laissé au lecteur, à la lectrice à imaginer ou à ressentir. Avec Gaëlle, on voulait aussi vous interroger sur la question de la colère, notamment, que peuvent susciter les situations des femmes que vous racontez. Et justement, Adèle, dans ton texte, on a, par le côté, on va dire, davantage documentaire, on a parfois l'impression que l'émotion est un peu mise à distance, en quelque sorte. Et en même temps, tu donnes à lire les lettres d'André, donc de ton arrière-grand-père, la violence du rapport de pouvoir de cette relation est là, quoi. Mais tu commentes pas et tu nous laisses quelque part nous-mêmes en déduire cette violence. Et donc on voulait te demander est-ce qu'il y a justement une certaine valeur dans cette pudeur, dans ce non-dit, et est-ce que le non-dit peut parfois dire plus que le dit. Non, c'est pas très bien dit pour le coup, mais est-ce que le... voilà, t'as compris la question.
Mais c'est marrant de le qualifier de non-dit, j'avais pas vraiment vu les choses comme ça. Pour moi, c'est plutôt que... Enfin, effectivement, c'est une absence d'analyse et de commentaires qui tient à deux choses. Qui tient, d'un point de vue, disons, littéraire et d'autrice, à la volonté que le lecteur ou la lectrice soit responsable de ses propres émotions et de sa propre interprétation. Et ça, je trouve ça... Enfin, moi, je souffre vraiment dans la littérature contemporaine de l'absence de place qui est laissée à nos interprétations et à notre activité, en fait, en tant que lecteur, lectrice, à notre intelligence, tout simplement. On est tout le temps pris par la main, tout le monde nous dit tout le temps ce qu'il faut penser, comment il faut ressentir, etc. Et je voilà, en fait, ça, c'est dire aussi que on n'aurait pas de terreau commun dans lequel on pourrait puiser pour ressentir les choses face aux mêmes événements. Moi, je crois qu'on a ce terreau commun. Donc il y a ça, mais ça c'est une raison, disons, c'est une conséquence d'un acte d'écriture que j'ai fait d'abord pour d'autres raisons, qui est simplement le rapport à ma famille, c'est-à-dire le fait que c'est très intégré pour moi, que c'est quand même un texte qui met en jeu un certain nombre de personnes de ma famille avec leurs propres émotions et leurs propres souffrances à l'intérieur de cette histoire, et que je ne peux pas leur imposer je ne peux pas nommer une souffrance qu'ils ressentent elles et eux, et que surtout cette histoire qu'ils auront tellement de mal à transformer dans leurs souvenirs, à voir autrement, finalement, elle aura plus de force si c'est précisément eux et elles qui font les liens et qui en arrivent à construire cette interprétation que si c'est moi qui leur impose de le penser. Donc finalement, la posture de lecteur-lectrice dont je parlais avant, c'est une sorte de généralisation de la posture de lecteur-lectrice qui était la seule à être possible pour les membres de ma famille qui allaient lire cette histoire. Et donc voilà, ça tient, enfin cette retenue là, elle tient vraiment à cette volonté de il y a de la tendresse, en fait, profondément, je crois, dans pour ma grand-mère, mais pas que, enfin je veux dire, j'ai envie de les ménager, en fait, j'ai pas envie de leur faire du mal, et c'est ça qui me fait retenir tout du long, sauf pour les personnes qui l'ont lu, vous savez, pendant les 20 dernières pages, mais qui sont des pages que quelque part j'aurais pu ne pas écrire si j'avais été moi-même capable de retenir ma colère et tout ce que j'avais mis de côté, en fait, pendant l'enquête. Enfin, ça a été quand même un travail où j'ai énormément ressenti, énormément, où je me suis énormément insurgée contre ce que je découvrais. Et à chaque fois que ça apparaissait, bah, je le mettais de côté. Et à un moment, il fallait que ça sorte. Et les 20 dernières pages, c'est vraiment ma lecture des 380 qui précèdent, en me laissant la possibilité de l'infuser de cette colère et de cette violence ressentie et retenue.
Et Louise, un peu la même question, mais sur peut-être le fait que la violence de genre et la violence sexuelle est très présente dans ton livre, mais il y a aussi des endroits... de la pudeur ou du non-dit, je ne sais pas, peut-être je te laisse toi choisir, mais en tout cas, tu laisses des endroits en suspens par des points. Ou, enfin, est-ce que c'est aussi pour toi une façon de donner une force par ce qui n'est pas exprimé ?
Oui, alors moi j'ai une autre manière de travailler parce que je te rejoins complètement sur la nécessité de laisser l'espace, et je pense que je le fais beaucoup, notamment au sens où je ne détermine jamais par des prénoms, Britney et Nelly, mais dans ce qui concerne les premières fictions, ou bien le récit, ou dans celui qui va paraître en septembre aussi, moi j'efface absolument tous les prénoms, toutes les situations, donc aussi pour justement laisser une place à, je pense que je m'intéresse à des situations, on va dire, tu as utilisé le terme mythique, mais en tout cas effectivement universel, oui, en tout cas partagé. Dans mon prochain texte, par exemple, je travaille la question de la relation mère-fille et sa violence. Donc évidemment, c'est extrêmement situé et ça vient de moi. Mais je pense que ce que je cherche là-dedans, en parlant du très intime, c'est vraiment ce à quoi tout le monde peut s'identifier. Et donc dans Britney, effectivement, il y a beaucoup de suspens, de non-dits, notamment dans la manière dont je faisais les liens. Et là, le terreau commun, il réapparaît parce qu'en fait, il y a des choses que je n'ai pas besoin de dire. En fait, j'ai envie de dire, vous voyez ce que je veux dire. Et évidemment, on voit. C'est-à-dire, vous voyez, si je vous dis une jeune écolière avec une mini-jupe sur le chemin de l'école, vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, les images collectives, on les a. Et je trouve que c'est aussi une manière de justement montrer cet inconscient collectif qui nous habite très fort et que j'essaye de miner un peu. Par contre, c'est vrai que moi, là, j'étais à l'inverse sur la question de la colère dans ce livre-là, parce que c'est la première fois où je me suis autorisée vraiment à ressentir la colère. Je me suis dit, je m'en fous. En fait, j'ai vraiment pas envie de ménager qui que ce soit là-dedans. Parce que quand j'ai découvert, quand j'ai rencontré Nelly et que j'ai découvert qu'elle était morte, ça m'a mis tellement en colère, en fait, que cette femme-là, sa puissance nous ait été vraiment volée, et Britney aussi. Et là, dans l'expression de la colère, moi, ça m'a donné beaucoup de force. Parce que depuis, on va dire, j'en ai un peu plus rien à foutre des choses qui pouvaient m'impacter avant, c'est-à-dire notamment la réception d'un certain milieu ou bien des... Voilà, je suis beaucoup plus assurée en moi-même parce que j'ai réussi à parler en mon nom et à parler au nom de cette colère. Et donc, il y a quelque chose quand même qui m'intéresse beaucoup dans la manière dont on empêche les jeunes femmes et les femmes d'utiliser de la violence, d'utiliser la colère. C'est-à-dire de voilà, et on parlait de la justice restaurative tout à l'heure, des questions. J'ai eu cette vision l'autre jour de vraiment cette image de Salomé qui coupe des têtes, et je me suis dit ouais, en fait c'est aussi un super geste quoi, et il faut aussi pouvoir l'assumer. Et voilà, non mais en fait c'est une vraie question, et pour vous dire, le prochain livre, en fait je me pose la question est venue de pourquoi en psychanalyse, il y a le concept de tuer le père et pas tuer la mère. Et pourquoi on ne permet pas aux jeunes femmes et aux jeunes filles de tuer la mère, de rompre avec la famille, de s'émanciper et de pratiquer une violence qui... Voilà. Donc, voilà. Pour le coup, la colère, elle était vraiment présente dans ce livre, mais pour moi, elle a été libératrice et extrêmement joyeuse. C'est-à-dire que je ne la mets pas du côté de quelque chose de négatif ou bien qui m'aurait rongée. Au contraire, c'est à partir du moment où je me suis autorisée à ressentir cette colère et à dire, mais en fait, si vous voulez pas l'entendre, c'est pas grave, mais c'est comme ça. Voilà, notamment parce que j'ai des amis garçons, hétéros, avec qui je pouvais me prendre en fait régulièrement la tête sur des sujets, et en me sentant jamais légitime. Mais à partir de là, j'ai dit, bah en fait, c'est comme ça, et voilà, c'est tout.
Et je voulais te demander aussi justement si parfois, dans la façon dont on te posait cette question de la colère, tu sentais une certaine misogynie, c'est-à-dire... étant donné que c'est, enfin, comme tu l'as dit, quelque chose d'assez pathologisé chez les femmes, est-ce que t'en as marre parfois qu'on te fasse, enfin je sais pas, qu'on te parle de la colère, enfin, et comment tu réponds en général à cette question quand tu sens que voilà, c'est pas exactement, elle est pas posée d'une façon qui te parle de la manière dont toi tu ressens cette colère.
J'ai l'impression que dans ce livre, j'ai un peu miné le terrain, parce que je raconte déjà que pour Comme la chienne, la réception avait souvent été celle-là. On m'a quand même, à la radio, le mec a quand même dit, oui, enfin, le viol, l'inceste, la psychiatrie, enfin voilà, les histoires de femmes, texto à la radio. Et donc je cite un peu toutes ces réactions. Donc je pense que le livre mine un peu le terrain et a un peu empêché que ça se reproduise. Bien qu'il y a quand même quelqu'un à la radio qui a dit bah, « je vais assumer, je vais être le vieux gars et je vais parler ». Donc là, mais par contre, ça s'est placé sur les virgules. Voilà, là, c'est là-dessus que ça a énervé tout le monde. Et donc, j'aurais un mésusage des virgules. Alors pour moi, quand même, un des principes du fait d'écrire et de la littérature que je prends quand même comme un art, c'est de tordre le langage. Donc je vois, voilà. Mais non, je pense, j'ai pas... Au contraire, j'ai été assez surprise, justement. J'avais un peu peur de ça. J'avais un peu peur de ce qualificatif féministe, hystérique, j'en sais rien, tout ça. Non, au contraire, après, peut-être des gens ont pensé ça, mais les retours que j'ai eus étaient plutôt, et même de beaucoup d'hommes, en fait, plutôt très bienveillants et touchés. Et donc, non, c'était plutôt... Évidemment, j'ai eu un peu peur de ça en l'écrivant. Je me suis dit, ah, c'est ça qui va se passer. Mais dans la réalité de la réception... Je crois pas. C'est pas trop passé comme ça. Ouais.
Et justement, par rapport à cette forme d'écriture, donc tes fameuses virgules, En fait, ça nous a aussi interpellés parce qu'il y a cette question de l'essoufflement des pensées qui se bousculent, qui peuvent traduire aussi donc une colère, mais parfois aussi une certaine angoisse. Moi, c'est quelque chose que j'ai pu retrouver aussi dans ma thèse chez certaines des artistes sur lesquelles je travaille. Et ça m'a intéressée précisément parce que c'est quelque chose qui est souvent pathologisé. On trouve dans les dossiers médicaux logorée, voilà. Jeanne Tripier, sur laquelle je travaille, elle est verbeuse, ce qui est un beau terme, en fait, finalement. Mais verbeuse et encombrante. Et donc ce qui est, voilà. Et en fait, je me suis... Enfin, on s'est un peu demandé aussi si, du coup, il n'y avait pas chez toi cette envie un peu de, bon, pour utiliser un terme qui est un peu à la mode, de retourner le stigmate, en quelque sorte, dans ta forme d'écriture, d'utiliser une parole, des phrases qui s'enchaînent, et retourner ce stigmate aussi de la pensée, de la pensée qui s'essouffle, qui serait bavarde, comme une arme, en fait.
Bah alors, un des premiers textes que j'ai écrit qui n'a jamais été publié, c'est « Le journal d'un fou ». Et c'était aussi une logorée comme ça. Je pense que je me suis toujours intéressée quand même à ce qui se disait aux marges du langage... des différents langages qu'on peut avoir, qui sont soit institutionnels, soit scolaires, soit quotidiens. J'ai l'impression que cette manière d'écrire rend bien plus compte de ce qui se passe en réalité dans nos têtes, en fait, quand on travaille. Et même ce que disait Adèle tout à l'heure, je trouve que... parfois c'est vraiment très compliqué, enfin je veux dire, mener un texte au bout, c'est aussi extrêmement compliqué, et j'ai pas envie de masquer ça, en fait. J'ai envie de rendre compte aussi de ce travail là qui est un travail du corps, qui est un travail de l'esprit, qui est un travail et par moments, justement, la question de la forme, de comment je mets en forme et tout ça, je me dis, bah, je vais montrer comment ça arrive aussi, et ça arrive comme ça, en fait, ça se bouscule. Et je pense que tous et toutes dans nos têtes, c'est comme ça que ça se passe, en fait, et que ça témoigne bien plus d'une forme de réalité, et que ça permet de mettre en regard nos doutes, nos certitudes par moment, et de ne pas poser une vérité, en fait. Il n'y a pas un discours au-dessus de ça qui viendrait dire, voilà, la vérité est ça. C'est aussi pour ça qu'il n'y a pas de point dans le livre. Il y a un peu un truc de, il n'y a pas de moment où il faut que je m'arrête pour dire, bah là, j'aurai atteint une conclusion. Donc oui, je pense que cette logorée-là m'intéresse, et qu'il y a quelque chose qui se dit là-dedans de beaucoup plus vrai que dans le langage quotidien.
Il y a une, je rebondis là-dessus, c'est vrai qu'il y a une grande force à pouvoir laisser libre cours à son langage, et je me rends compte en t'écoutant, Céline, qu'il y a un... Enfin, en fait, justement, moi, cette peur de laquelle parle le livre, de la folie, fait qu'à l'inverse, j'ai eu besoin d'avoir un langage qui était extrêmement domestiqué et qui s'appuyait sur mes habitudes aussi universitaires, etc., d'extrême précision des termes, des sujets, des verbes au bon endroit, etc., parce qu'il y a une véritable angoisse de l'écriture comme témoignage, hérité, hein, aussi de tous ces stéréotypes, mais une véritable peur de l'écriture comme ce qui révélerait ce que tu n'es pas en capacité de voir sur toi-même, qui est ta folie, en fait, finalement. Et c'est assez révélateur que, à l'inverse, les 100 pages dont je disais que je les avais écrites ensuite, qui sont dans ma thèse, en fait, quelque part, l'écriture est beaucoup plus libre, alors que c'est des pages qui sont beaucoup plus universitaires, mais parce que j'ai fini de me mettre à l'épreuve de cette enquête, parce que je sais que je vais être édité, et qu'il y a tout d'un coup une assise, en fait, une sorte de confiance dans le fait que ma rationalité a tenu le coup, qui fait que je n'ai plus besoin de me le prouver par le langage. Je peux lâcher, ouais. Je pense juste, en t'écoutant, que je ne sais pas quelle va être ma relation avec l'écriture dans les années qui vont venir, mais je pense déjà voir qu'il y a quelque chose à cet endroit-là qui s'est ouvert en moi, vraiment, quoi.
Après, je pense qu'il y a aussi... comme je parlais de la fiction dans mon premier livre, où j'avais eu besoin de la fiction pour me protéger, en quelque sorte, de ce que je voulais pas qu'on m'assigne, tu vois, c'est-à-dire féministe, tout ça, voilà. Donc j'ai eu besoin de la fiction. J'avais vraiment besoin que ce soit un texte reconnu comme littéraire, qu'on voit que j'avais bien poliment travaillé sur la forme, je m'étais bien pris la tête. Et voilà, et j'avais plein de... Bon, mais... Maintenant, je m'en suis dépouillée, effectivement, et j'ai décidé d'assumer ça. Mais c'est vrai que moi, en lisant ton texte, que j'ai vraiment beaucoup aimé, il y a tellement de moments où j'étais « Ah, putain, quoi !» Et je sentais cette colère-là monter en moi. Et effectivement, les pages de fin résolvent un peu ça. Mais c'est aussi très fort, justement, de tenir bon avec cette dimension de volonté un peu de neutralité et de distance. Mais c'est vrai qu'on se demande comment t'as fait, quoi. Parce que c'est... Les lettres d'André, c'est...
Mais parce que le montage, quand même, résout ça. C'est-à-dire que je ce que je ne dis pas par le commentaire, je le dis par la proximité de certains...
Je le fais apparaître
par la proximité de certains matériaux. Donc, en fait, ça ne... Là, quelque part, l'explosion peut avoir lieu. C'est juste qu'effectivement, ça n'explose pas dans le langage, ça explose dans le montage.
Mais chez le lecteuriste, ça explose pour le coup. Ouais.
Et pour revenir aussi à la question de l'image, qui est un peu mon obsession, et la question des corps exhibés, notamment parce que les femmes assignées à la folie ont souvent été exhibées, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on trouve dans vos deux récits, puisque Adèle, donc tu consacres pas mal de pages à la question de la lobotomie, et tu racontes par exemple ces lobotomies pratiquées en public par Freeman aux États-Unis, donc la fascination pour le corps de la femme folle. Il y a aussi chez Louise cette image de Britney au crâne rasé, comme si tout le monde l'attendait, comme si finalement elle venait se conformer à ce qu'il attendait depuis le début. Mais il y a aussi la question des corps qui s'exhibent, et il y a ce passage qui est troublant mais aussi magnifique dans ton livre, Adèle, la nièce qui raconte que Betty se montre nue à elle et lui dit elle voulait être vue, elle voulait que je la voie. Et chez Britney, il y a aussi ce moment que tu décris, Louise, où finalement elle se ressaisit de son pouvoir, de sa sexualité, de son corps. Et là, tout d'un coup, elle fait peur. Et donc, du coup, la question que je veux vous poser, c'est la question du désir réprimé, mais aussi du désir féminin qui, quand il s'exprime, est considéré comme monstrueux, finalement. Et ça, c'est quelque chose aussi que j'ai retrouvé dans, notamment chez Aloïs Korba, qui est une artiste sur laquelle je travaille, donc qui est un peu la papesse de l'art brut, entre guillemets, et qui, je pense, est l'une des premières artistes à représenter des corps féminins, donc qui ont pu être qualifiés de monstrueux, mais qui expriment vraiment un plaisir et un désir sexuel explicite, en fait, par l'image. Je me demandais si cela faisait écho, en fait, dans l'espace littéraire que vous trouvez, c'est-à-dire est-ce que, ou peut-être par la cuisine, par le chant, enfin, est-ce que vous avez trouvé dans ces espaces artistiques des endroits où le désir pourrait enfin sortir des normes? Voilà, donc littérature, chant, cuisine, enfin voilà, peu importe la forme, mais en tout cas des espaces comme ça.
Et dans le cas d'Elisabeth, il y a un truc qui est quand même très particulier, et c'est encore, enfin c'est ce que j'appelle l'ironie tragique d'Elisabeth, c'est que cette manière qu'elle a d'exposer son désir après son opération, qu'on comprend de différentes manières. Il y a effectivement cette scène avec la nièce où elle se montre à elle nue. Il y a aussi le fait que ma famille me raconte qu'elle est toujours en train de courir après son mari André dans la propriété familiale en lui demandant un bisou, enfin quelque chose qui est comme ça une expression physique, quoi, de son désir. Mais la grande ironie, quelque part, elle est dans le fait que ça, c'est des choses que Elisabeth fait après son opération, qui est quand même, ne l'oublions pas, une opération, la lobotomie, précisément pour annuler cette dimension des femmes. C'est-à-dire que c'est vraiment, enfin, quand on lit les comptes rendus de lobotomie sur ce que c'est qu'une femme guérie par la lobotomie, c'est une femme qui a pu reprendre ses tâches domestiques, peut s'occuper aux tâches de ménage et de cuisine, peut s'occuper à l'éducation de ses enfants, etc., etc. Donc c'est une femme qui est dans l'annulation complète de tout ce qui pourrait déranger précisément cette société patriarcale-là. Et en fait, ce qui est très ironique chez Elisabeth, mais de manière générale chez les patientes qui ont été lobotomisées, c'est que, et ça je l'ai lu dans plein de comptes rendus médicaux, c'est que oui, dans les premiers mois après l'opération, on a cette forme d'apathie, littéralement du cerveau qui est choqué en fait par l'opération qui vient de se dérouler, mais dans les années qui suivent, ça donne des femmes qui ont ce qu'on appelle des syndromes frontaux, donc qui sont des femmes qui sont complètement désinhibées, et donc elles deviennent en quelque sorte des caricatures de précisément ce que les hommes ont cherché à exclure en premier lieu, mais vraiment des caricature de ces femmes qui exposent leurs désirs, se jettent sur les hommes, etc., etc. Et donc c'est un retournement quasiment grotesque en fait de la situation où on a cherché à expurger quelque chose de la société, où cette chose nous revient en pleine tronche de manière encore plus éclatante quelque part. Mais il y a aussi beaucoup de tristesse là-dedans, si vous voulez, parce que justement il y a quelque chose de enfin, ce désir-là qu'elle exprime in fine dans sa vie est un désir dont elle n'est pas l'autrice, quelque part. Et donc, c'est une question qui reste compliquée pour moi, en fait, celle-là. Parce que, justement, c'est pas un... Ouais, c'est pas un espace d'identification avec elle ou de compréhension claire. Ça reste quelque chose qu'on lui a fait et qui donc sort d'elle comme ça. Et c'est, enfin, vraiment, c'est une question que je n'ai pas résolue, moi.
Ça, je pense que ça fait vraiment écho à ce que fait Britney Spears aujourd'hui quand tu dis ce qu'on lui a fait. En fait, Britney Spears aujourd'hui, elle continue de faire ce qu'on lui a toujours demandé de faire. Donc, pour celles et ceux qui ne voient pas, elle, depuis qu'elle a récupéré sa liberté, elle s'exhibe en permanence sur les réseaux sociaux. Mais en fait, elle fait ce qu'on lui a toujours demandé de faire depuis l'enfance, c'est-à-dire danser à moitié nue. Sauf qu'aujourd'hui, on ne voudrait plus qu'elle le fasse parce que justement, après des années d'enfermement de force, de médicamentation de force, elle n'est plus comme on voudrait qu'elle soit. C'est-à-dire son corps, déjà, elle a 42 ans, c'est quand même encore très jeune, mais voilà. Et dans le livre, du coup, c'est ambigu, parce que c'est vrai que moi, en tant que femme, il y a une dimension ambiguë là-dedans quand je la regarde, parce que à la fois, je me dis ce qu'elle dit, c'est-à-dire que là, elle récupère son corps et qu'elle assume son désir et qu'elle prend plaisir à faire ça et qu'on est obligé d'entendre. Mais il y a aussi une part de moi qui me dit « Ah, c'est quand même ce qu'on lui a fait. » Et du coup, elle est en train de demander... encore une forme d'amour qu'avant elle a reçue comme ça, mais maintenant ça marche plus, elle reçoit que de la haine, donc c'est assez ambigu. Et en même temps, ce que je dis dans le livre, c'est que bah, j'espère qu'elle va continuer à faire ça jusqu'à 90 ans et danser à moitié nue sur Instagram, parce qu'elle montre aussi quelque chose qu'on veut pas voir, c'est-à-dire un corps qui n'est plus parfait, un corps qui est abîmé par ce qu'elle a vécu, parce que c'est vraiment quand même une survivante justement de cette psychiatrisation des femmes. Donc pareil, j'ai un rapport ambigu à ça, mais je pense que dans la construction, en tout cas que moi j'ai vécu à mon époque en tant que petite fille, on nous a toujours appris à réprimer nos désirs, à les cacher, à cacher notre corps. En même temps, bien sûr, en étant dans un truc d'hypersexualisation, donc c'est tout le paradoxe, mais voilà, moi petite fille, quand je dansais sur Britney, en fait, j'adorais ça. Me rouler par terre, faire des trucs hyper sexy que je comprenais pas étaient sexy, mais c'était un truc de puissance, de mon corps. Et après, j'ai appris à me construire voilà, en étant très sérieuse, en apprenant à pas prendre de place et à pas, du coup, permettre à mon corps d'exprimer quelque chose qui, du coup, je ne sais pas ce que ça pourrait être pour que ce soit vraiment libre et pas déterminé, parce que c'est un peu soit rien, soit l'hypersexualisation, et on est un peu coincé dans cette chose-là. Mais en tout cas, tu évoquais la musique. Et c'est vrai que moi, le fait d'aller sur scène, par exemple, a été extrêmement compliqué, parce que l'écriture, c'est bah, je me cache, voilà, mon corps n'existe pas. À la fois, il existe parce que je suis fatiguée, je travaille énormément, mais en même temps, je ne le montre pas. Et le fait d'aller sur scène, ça a été un grand, grand moment d'angoisse. C'est-à-dire même de demander, est-ce que j'ai le droit légitimement d'apparaître sur scène ? Qu'est-ce que je cherche ? Est-ce que je cherche de l'approbation, de l'amour, justement ? Alors que c'est complètement autre chose, c'est un truc qui a à voir avec la performance et aussi le lien avec le public. Mais en tout cas, je pense que ça s'inscrit clairement pour moi dans une tentative de réapproprier justement mon corps et de savoir quel est l'endroit juste de son désir à lui. Et voilà. Et en tout cas, c'est vrai que moi, c'est une scène qui m'a énormément marquée dans le livre, quoi. Quand on imagine Elisabeth se montrer nue, on voit très bien comment on peut le recevoir. Ah, une femme abîmée qui se montre nue, on voit bien tout ce que ça provoque et qui en plus aurait du désir. Et c'est effectivement très ambigu et très compliqué à recevoir en tant que femme, je trouve.
Alors, on s'oriente vers la fin de la rencontre, mais je voudrais poser quand même deux toutes petites dernières questions. D'abord, une question pour toi, Adèle, puisque Louise, tu viens de nous parler justement de ce rapport aussi à la chanson et à la musique qui te déplace un peu ailleurs dans ta pratique, mais qui a vraiment un lien fort avec tout ce dont tu parles dans tes textes. Et toi, Adèle, tu reviens dans Mon vrai nom est Elisabeth sur le fait qu'à un moment, tu as abandonné ce travail-là pour pouvoir aller faire de la cuisine, pour pouvoir mettre les mains dans la matière, en quelque sorte. Et c'est quelque chose que tu fais toujours, il me semble, cuisiner. Et donc, on se demandait avec Cécile comment ces deux gestes, celui d'écrire, celui de produire de la nourriture, de nourrir, s'associer, se jouer, se combiner pour toi.
La schizophrénie a quand même des limites. Hein. Je ne peux pas faire l'activité d'autrice que je fais depuis un an, H24, et cuisiner en travaillant dans un restaurant. Hein. Ce n'est pas possible, juste. Mais par contre, je continue à cuisiner pour moi. Mais tu ne fais pas
de temps en temps des petites...
Non, je ne fais plus, je ne fais plus. J'ai même assez clairement décidé que j'arrêtais de le faire parce que justement, ce que ça sollicite, l'écart que ça me sollicite, que ça me demande de vivre, et finalement assez violent. Et il faut pas, enfin, parce que ce que tu disais sur la musique à l'instant, c'est marrant parce que à la fois j'y reconnais complètement mon rapport à la cuisine dans ce, bah, c'est clairement des moments d'expression plus que d'expression du corps en fait, de où il faut être dans son corps, sinon ce n'est pas possible. Mais la cuisine, contrairement à la musique, est un endroit de discipline extrême. Et donc en fait, ce n'est qu'une violence supplémentaire qui est vécue à un autre endroit, mais c'est une violence pour le corps réel quoi. Ou alors il faudrait que je fasse ça depuis peut-être une quinzaine d'années et que mes mouvements soient une chorégraphie qui m'échappe complètement et dont je puisse reconnaître la beauté. Aujourd'hui, c'est une souffrance. Enfin, voilà, travailler en restauration, pour moi, c'était une souffrance.
Après, être sur scène, c'est aussi une souffrance. Ouais. Non, mais c'est hyper dur. Enfin, c'est... Et je pense, enfin, moi en tout cas, enfin, particulièrement en tant que femme, c'est-à-dire l'idée que les gens te voient. Et la question de l'apparence, si tu veux, j'ai beau avoir écrit 3 livres, avoir 32 ans, etc., c'est des choses qui, encore, quand tu arrives pour chanter sur scène, c'est une lutte vraiment violente avec beaucoup de choses, quand même. Mais je sais pas pourquoi, pour l'instant, je persiste. Mais, non, mais c'est vrai, c'est une question, parce que c'est... Voilà. Après, toi, tu parles par exemple de théâtre, où tu vois, tu collabores aussi avec des personnes dans le théâtre. Enfin, je pense que quand même le fait d'écrire des livres est assez, est vraiment, enfin, c'est très difficile. Ça met à l'épreuve mes relations sociales, personnellement, ma vie amoureuse, toutes ces choses-là. Enfin, c'est quand même très coupé pour moi, et ça met dans une ambiance vraiment monomaniaque, quoi. Donc, je pense que quand même dans la scène. Parce qu'avant Britney, les livres avaient moins bien marché, donc j'avais pas de rencontre avec le public et tout ça. Donc j'étais vraiment très isolée. Je pense que quand même la scène m'a permis d'aller un peu vers les autres.
Mais ouais, dans ce cas, peut-être que ça se ressemble finalement. Si tu le vis aussi comme une certaine violence. Non, mais parce que c'est ça, c'est une sorte de violence extrême que tu te fais, mais dans laquelle tu finis par trouver quand même une forme d'esthétique ou de liberté, parce qu'un service en cuisine, quand, voilà, au bout d'un moment, ça se déroule quand même, ça vole, enfin, il y a quelque chose d'assez magique. Donc peut-être que ça se ressemble finalement beaucoup. Mais enfin, en tout cas, d'ailleurs, ça revient à ce que tu viens de dire. Pendant l'écriture, je cuisinais aussi. Je travaillais un jour par semaine dans un resto et je pense que ça a effectivement beaucoup, beaucoup nourri l'écriture, parce que justement, j'étais pas du tout quelqu'un qui faisait une place au corps. Enfin, et c'est toute l'histoire en fait aussi de comment j'arrive au jeu J.E. dans l'écriture de ce livre, et comment je ménage petit à petit une place aux sensations et aux émotions. Et je pense que si j'avais simplement continué sur ma voie de chercheuse, universitaire, théoricienne, etc., j'aurais jamais réussi à trouver la bonne place. Et c'est vraiment ces moments en cuisine et la manière dont ils me font violence, mais la manière aussi dont ils me demandent, oui, où je comprends que le corps a sa raison, véritablement son intelligence, enfin... Au bout d'un moment, quand on a compris que c'était chaud parce qu'on s'est brûlé 3 fois, donc on ne s'approche plus de cette flamme. Donc le corps a son intelligence, qui est une intuition. Et ça a vraiment profondément, profondément transformé ma manière d'écrire.
Merci beaucoup à toutes les deux. Je pense qu'il est venu de laisser la parole au public pour les questions. Mais vraiment, merci chaleureusement pour cette discussion.
On va faire circuler les 2 micros dans la salle, le temps qu'ils fonctionnent. On va prendre quelques questions. Je vais donner l'autre micro à Sarah qui est en haut. Et n'hésitez pas à lever la main. Donc, y en a une là-bas.
Bonsoir, merci beaucoup pour votre, tout ce que vous avez dit, c'est super intéressant, ça donne vraiment envie de lire vos ouvrages. À un moment, vous avez parlé de montage et vous avez fait des études de cinéma, Adèle. Qu'est-ce qui vous a décidé de... Enfin, j'ai pas lu votre livre, mais du coup, j'ai pas bien compris si vous aviez fait un film aussi connecté à votre œuvre. Et voilà, est-ce que vous auriez envie d'en faire peut-être un film avec toutes ces archives aussi institutionnelles que vous avez trouvées parce que moi, personnellement, ça m'a fait penser à un film d'archives qui s'appelle Ultraviolette et le gang des cracheuses de sang, qui part d'une correspondance intime entre deux femmes lesbiennes dans les années 20. Et l'auteur du film, c'est le petit-fils d'une de ces femmes. Et pour incarner cette histoire, il a pris des archives d'autres femmes pour justement rendre cette histoire d'amour intime universelle. Donc voilà.
Je connais pas ce film, mais ça a l'air super. Ultraviolette ou quoi ? Le titre est génial.
C'est Ultraviolette et le gang des cracheuses de sang, parce okay. qu'elles ont la tuberculose aussi.
Ok. Trop bien, tu connais ? Ça a l'air super. Non, il y avait pas de, j'ai pas fait de film en plus de d'écrire ce livre, désolée. Mais j'ai pas du tout le désir de le faire. Il y aura un film, il y aura une adaptation de ce livre que je ne ferai pas. Mais en revanche, je vous fais un gros teasing parce que je vais pas vous dire qui c'est. mais j'ai choisi une personne, une réalisatrice, dont justement je souhaitais qu'elle emporte cette histoire dans un endroit complètement différent, enfin vraiment dans son imaginaire, qu'elle se réapproprie complètement, et un peu dans cette idée justement de ne pas personnaliser les histoires, de ne pas les voilà, c'est plus mon histoire aujourd'hui, c'est plus mon histoire, et donc je voulais vraiment que elle ait toute cette matière à disposition pour l'emmener dans son univers à elle. Donc j'ai pris vraiment la tangente complète de la voix et documentaire et adaptation au sens strict, ça sera sans doute assez loin du livre. Enfin, donc voilà, c'est parce que, enfin, pour moi, le montage, en fait, bizarrement, c'est presque un acte de pensée. En fait, c'est pas tant lié au cinéma. Si vous voulez, le cinéma l'utilise, mais comme la littérature peut l'utiliser, comme la philosophie peut l'utiliser, c'est presque une méthode de connaissance davantage qu'une représentation visuelle.
Oui, c'est lié à la proximité. Enfin, à un moment, vous avez parlé de la proximité avec les matériaux, et c'est comme si la proximité, c'était le montage, parce que le montage, soit on choisit d'être proche ou à distance du matériel. Enfin, il y a d'autres, il y a d'autres manières, mais je trouve ça intéressant que vous avez parlé de cette proximité-là, que d'une certaine manière, votre livre n'avait pas besoin de voix off. Enfin, c'est un peu ça, enfin, de commentaires, sauf à la fin où ça explose apparemment. Donc,
Ouais, non, mais c'est vrai, le montage permet de rapprocher. Enfin, le montage est ce qui permet de rendre les lectrices actives, tout simplement. C'est-à-dire que c'est ça, les liens se font dans l'esprit ou dans la voix des lectrices qui lisent le livre et non pas dans celle de l'autrice qui nomme. Donc oui, pour moi, c'est une vraie alternative aux commentaires, quelque part, à l'analyse.
Merci beaucoup.
Le micro ici, Sarah, et je crois qu'il y a une main qui s'est levée aussi là.
Bonsoir, merci beaucoup. Déjà, j'ai vraiment pris un plaisir énorme à lire vos deux livres qui sont très différents. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il y en a un qui est plutôt court, un plutôt long, et on les avale dans le même souffle tous les deux. Moi, c'est des questions qui me touchent très personnellement aussi, et je me suis vraiment posé beaucoup la question de l'écriture et de la bonne distance du coup qu'on pouvait avoir. En tant que personne qui écrit sur un sujet. Et Adèle, du coup, je me suis posé, tu l'évoques dans ton livre, la réaction de ton entourage et des gens qui ont connu Elisabeth et leur réaction face à ton écriture et à ton enquête, comme si tu déterrais vraiment quelque chose qu'il ne faut pas déterrer. Et je me posais la question de la réaction de ton entourage face au succès du livre. Et si certaines personnes avaient, parce que c'est une histoire que tu de l'appropriation, voilà, de cette histoire et de pour ceux qui ont souffert Elisabeth et qui l'ont connue, comment ils ont réagi au livre. Parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a traversé moi, puisque j'ai dû moi-même faire des internements pour quelqu'un qui m'est très proche. Et ça m'a vraiment traversé ça, sur cette bonne distance et sur la réaction de ton entourage, sur cette histoire que tu es allée déterrer ne l'ayant pas connue. Et donc, tu as à moitié répondu tout à l'heure en parlant qu'on a besoin de créer des femmes mythiques, de se construire. Voilà.
C'est une question qu'on pose toujours et en même temps dont la réponse est toujours en évolution parce que la réaction change constamment en fait. Y a une partie de la réponse qui est de dire que leur réaction elle est assez similaire à leur réaction dans le livre à cette enquête et à leur positionnement par rapport à la parole. C'est-à-dire que de toute façon il y a vraiment... je le schématise, mais il y a quand même vraiment le camp de la parole et le camp du silence. Et suite à la sortie du livre, le camp du silence a exagéré sa position de camp du silence et le camp de la parole a exagéré sa position de camp de la parole. Donc le camp de la parole a lu, transmis, écrit, disséminé le plus possible ce livre. Et le camp du silence en a fait un nouveau tabou familial qui remplace le tabou Elisabeth puisque désormais on en parle. Et donc ça devient, ce n'est plus Elisabeth mais c'est le livre dont il ne faut pas parler. Que les jeunes filles ne doivent pas lire, qu'il ne faut, avec cet effet toujours absolument magnifique quand on nous interdit quelque chose, voilà. Donc finalement ça a vraiment, c'est marrant quoi, ça remplace le mythe Elisabeth. Mais après je dis que ça évolue parce qu'il y a eu le succès du livre, mais bizarrement, contrairement à ce que j'aurais pu penser, ça n'a pas du tout intensifié les crispations qu'il pouvait y avoir. Je pense qu'au contraire, ça a vraiment justifié quelque part ma démarche à l'endroit où je voulais qu'elle soit justifiée. Parce que, enfin, j'essaye de le dire de mille manières depuis tout à l'heure, mais à aucun moment il y a l'intention pour moi d'exposer l'histoire d'une famille comme l'histoire d'une famille pour en montrer les défauts et les blessures précise, si vous voulez. C'est-à-dire, pour moi, ça n'a d'intérêt à devenir écriture et à devenir texte qu'à partir du moment où ça concerne des intérêts partagés, comme tu le disais, beaucoup mieux qu'universels ou collectifs. Et plus le livre marchait, plus ma famille était mise face à ça, en fait. Au fait que des Elisabeths, il y en avait dans toutes les familles. Et quelque part, ça réparait aussi quelque chose en eux qui était ce sentiment d'exception. Mais ma grand-mère, les enfants d'Elisabeth, ils ont grandi en se pensant les enfants de la folle, la seule folle, la seule folle qui est dans le monde quasiment. Ils étaient une exception dans la société qui les entourait. Et tout d'un coup, qu'autant de personnes reconnaissent leur histoire dans celle-ci, fait que non seulement ils n'ont plus cette honte parce que ce destin est partagé, mais qu'en plus, quelque part, il y a une sorte de fierté qu'ils peuvent récupérer parce qu'il y a de quoi porter fièrement en fait, cette figure d'Elisabeth dans la famille. Et donc se passe quelque chose très récemment que j'avais pas du tout envisagé, qui est que cette famille, qui est très attachée à sa mythologie familiale, à sa légende familiale, intègre ce livre dans sa légende familiale. Et donc, voilà, aujourd'hui, ça en fait partie, le succès de ce livre en fait partie, devient une raison de gloire, quelque part, ce qui me dérange aussi un peu, parce que ça efface beaucoup de culpabilité et de responsabilité, mais qui dit aussi la manière dont le récit peut s'adapter et faire autorité aussi pour les prochaines générations, quelque part.
Et tu t'es jamais posé la question de l'héroïsation que tu pouvais faire aussi de ce personnage et de sa violence à elle aussi, qu'elle a pu faire subir autour d'elle? Ça, c'est quelque chose dont tu ne parles pas dans le livre, en fait.
Parle de rien dans le livre, en fait, dans ce cas-là. C'est-à-dire que y a la place pour ça, en fait. Parce que moi, la violence d'Elisabeth, je la ressens assez souvent, et il y a la place pour la comprendre, tout autant qu'il y a la place pour comprendre la violence d'André, en réalité. À ce tarif-là, je ne pousse à rien comprendre plus qu'autre chose. C'est aussi de quoi notre société a besoin et qu'est-ce qu'il est important de mettre en avant. Et là, en revanche, je pense qu'il est beaucoup plus important de mettre en avant la violence d'André et des hommes comme André que la violence d'Elisabeth, si vous voulez.
Merci du coup pour votre intervention. Moi, c'est une question très simple. Est-ce que vous avez prévu de faire des traductions en anglais, en fait, de vos livres? Peut-être aussi pour Britney. La question se pose beaucoup, mais aussi pour Adèle. Merci.
Bah après, ça, c'est pas nous vraiment qui décidons. C'est le, enfin, en fait, c'est des éditorices anglophones qui le font. Donc, bah oui, je crois. Enfin, pour Britney, c'est en cours, mais c'est voilà, c'est des choses qui se passent. C'est pas nous qui décidons, en fait. En fait, en soi, moi, on pourrait vouloir que ce traduit dans tous les pays, mais il faut, c'est vraiment des questions d'achat, de droits. Enfin, c'est voilà, des questions qui nous dépassent et qui sont tractées par d'autres personnes que nous.
Mais oui aussi. Mais c'est très long. C'est très long. Moi, ça sortira en anglais à l'automne 27, je crois.
Merci beaucoup pour vos interventions. Je suis juste là. Moi, j'avais une question surtout pour Louise par rapport au. En fait, quand j'ai lu pour Britney, j'avais vraiment l'impression. Enfin, on parlait tout à l'heure des virgules, de l'écriture, de. J'avais vraiment l'impression d'entendre une voix qui me parlait de cette logorée et j'avais envie de voir le texte sur scène, enfin de le voir incarné. Et du coup, je viens d'apprendre qu'en plus, ben, vous êtes chanteuse et je me demandais s'il y avait un projet de le mettre en voix d'une certaine manière ou de performance autour parce que je pense que c'est un texte qui. Enfin, j'ai l'impression qu'il s'y prête.
Oui, alors c'est vrai que c'est... En fait, moi, je suis en train de réfléchir à ça, mais depuis le début, en fait, depuis Comme la chienne, on parle de ça. Et Comme la chienne, qui n'avait pas eu le succès de Britney, déjà avait été mis en scène par une troupe, et on m'a toujours dit ça. Moi, la littérature qui m'a toujours parlé, que ce soit Beckett ou Duras, c'est des voix, en fait, c'est des choses qu'on entend, c'est des gens qui nous parlent. Et encore une fois, parce que j'ai l'impression que les voix... Quand on les entend, on entend vraiment la singularité, l'individualité, et pas une langue, pas une position surplombante, donc pas le narrateur omniscient, on va dire. Donc moi, j'aime quand on entend la voix d'une autrice, de quelqu'un. Et donc voilà, donc pour Britney, il y a plusieurs adaptations en cours, parce que de toute façon, quand je... Enfin, moi, en tout cas, je donne les droits pour rien, pour ça. Enfin, je ne vais pas payer les droits, vraiment. Et après, chacun, chacune fait ce qu'il veut. Donc je sais qu'il y a plusieurs... Mais d'ailleurs, ça m'a fait très bizarre de le voir. J'ai vu quelqu'un s'emparer du texte. C'était très étrange pour moi parce que c'était pas du tout la façon dont je l'aurais dit. C'était pas du tout ma voix. Voilà. Après, ça c'est voilà. Par contre, c'est vrai que j'ai commencé à prendre plaisir moi à faire des lectures à voix nue complètement du texte. Mais ça c'est dans ma pratique, ça s'est pas encore tout à fait rejoint. Même si je pense à une écriture théâtrale qui serait directement théâtrale, notamment en réécrivant le mythe, enfin la pièce de Sophocle d'Électre, voilà, et Électre qui rêve de tuer sa mère mais qui n'y arrive pas, c'est son frère qui la tue, voilà. Et j'aimerais bien qu'Électre tue sa mère. Et voilà, ça c'est potentiellement une forme qui va naître directement de manière plus théâtrale, mais je ne sais pas encore très bien comment.
Prendre une dernière question. Là.
Tout d'abord, merci beaucoup pour cette rencontre. Et je rebondis sur quelque chose qui a été dit sur l'obsession et la fascination des images. Et à un moment donné, je crois que c'est vous, Louise, qui avez dit que vous avez du mal à lire des romans. Enfin, vous lisez plus des romans. Et comment j'ai interprété ça, c'est le fait que vous ne lisez pas de romans parce que justement vous voulez combattre les images. Il y a quelque chose comme le rejet de l'image. Et moi personnellement, je suis très attaché à la forme romanesque. Et je voulais savoir si, selon vous, il y a un espoir que le roman un jour puisse porter de nouvelles images, notamment sur le féminin, qui permettrait de libérer certaines paroles, notamment. C'est un peu brouillon, mais je sais pas.
Moi, je crois pas. Non, mais j'en sais rien. Enfin, c'est toujours pareil, qu'est-ce qu'on appelle roman ou pas. Moi, si on veut dire que mon livre, c'est un roman, pourquoi pas, ou le livre d'Adèle. Je pense que ce qu'on a quand même appelé roman... s'est formé à un moment dans un certain contexte, a été pratiqué essentiellement par certaines personnes qui se trouvent avoir été des hommes blancs. Et j'ai l'impression, mais après je dis ça, j'ai l'impression que c'est quand même une forme, enfin voilà, qui est après voilà, il y a des gens qui écrivent des romans. Joyce Carol Oates en écrit, je crois qu'elle en écrit très bien et elle est très lue. et elle parle là, de toutes ces questions-là. Mais il y a quelque chose pour moi dans la fabrication qui... Et je pense que ça revient aussi un peu à l'intelligence du lecteur, enfin à ces questions-là. Il y a quelque chose pour moi qui est un peu dans l'idée que l'auteur, l'autrice manierait toute cette matière et jouerait un peu avec tout ça. Et encore une fois, ce point de vue omniscient de contrôle comme ça qui... Je sais pas, c'est peut-être un peu confus là, ma réponse, parce que ça, c'est des questions qui me travaillent, mais il y a quelque chose dans la position qui, moi, me parle plus. Et je vais prendre un exemple, qui est cette autrice canadienne, Alice Munro, qui, en fait, a vécu toute sa vie avec un homme qui a abusé de sa fille et qui écrivait des romans là-dessus. Et en fait, c'était dans la même maison, donc elle écrivait des livres et elle se servait de la matière de sa vie pour écrire des romans qui... Donc, alors après, quand on lui a donné le Nobel, on a dit, voilà, incroyable, votre connaissance du cœur humain, nanana. Mais en fait, y a un hiatus, quoi. Il y a quelque chose qui va... Ce cas-là, vraiment, me fascine parce qu'apparemment, elle aurait écrit des romans dans lesquels elle comprend incroyablement bien la violence du monde humain. Donc voilà, après, pareil, on peut prendre un autre exemple, Lolita de Nabokov. Ben, Nabokov a beau s'évertuer à dire que Lolita n'est pas la coupable, mais que c'est Humbert, il y a quelque chose qui ne passe pas. Et donc j'ai l'impression que, stratégiquement, on va dire aujourd'hui, là, maintenant, on aurait besoin d'autre chose. Après, ce n'est pas pour dire que je suis pro-témoignage, et j'ai aussi beaucoup de mal avec une littérature qui serait essentiellement du témoignage, mais quand même, j'ai l'impression, voilà, Lolita, on l'a complètement confisquée. Enfin, on a fictionnalisé la fiction et on a voulu voir ce qu'on voulait voir. Et le pauvre Nabokov, il était là à la télé à dire, mais non, c'est Humbert le coupable, ça passe pas. Voilà, donc moi, l'endroit où j'en suis, moi, aujourd'hui, c'est celui-là. Mais après, je peux tout à fait être démentie, bien sûr.
Mais en l'occurrence, tu as dit, tu as parlé de la fiction, pas du roman.
Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Mais oui. Je crois que c'est ça qu'il voulait. Ouais.
Oui, mais parce que, enfin, il y a quand même une différence. Le roman n'est pas défini par la fiction, en fait. Il n'est pas réductible à la fiction. Et c'est aussi, moi, j'aime beaucoup ce passage. Je crois que c'est dans Une chambre à soi quand Virginia Woolf dit que les femmes jusqu'ici n'ont écrit que des romans, précisément parce que c'est la forme qui est la moins définie et dans laquelle il y a le plus d'espace à prendre et de liberté à prendre, parce que c'est celle qui a le moins de codes. Et moi, je suis vraiment attachée à cette... définition par absence de cette définition indéfinie du roman qui justement n'est pas réductible à cette question de la fiction qui est aussi, enfin, qui est celle à laquelle tu as répondu et qui est une question à part entière. Mais je pense qu'il faut sauver le roman de la fiction quelque part.
Mais du coup, pourquoi on aurait besoin de ce terme roman?
Ben ouais, c'est une vraie question. Bah parce
là, j'ai l'impression qu'on, enfin, je sais pas.
Non, mais parce qu'on en a encore besoin, mais il faudrait qu'on n'en ait plus besoin, oui, je suis d'accord. C'est-à-dire que... Parce que moi, je l'ai pris aussi... Je l'ai reçu un peu à l'inverse, c'est-à-dire que... Enfin, c'est un peu des questions qu'on a évoquées tout à l'heure, mais moi, j'ai été très bloquée dans la catégorie essai, non-fiction, etc., comme si... et donc, roman, c'est un peu ce que tu disais sur ton entrée en littérature tout à l'heure... Parler de roman, c'était aussi une manière pour moi de revendiquer le fait que, je suis désolée, il y a une transformation de la matière du réel dans ce livre. Et
donc c'est stratégique.
Et du coup, c'est stratégique, mais dans un monde où on n'a plus besoin de classer les livres pour des raisons de prix, de rayons en librairie et de fréquences radio ou télévisuelles, c'est vrai que sans doute qu'on pourrait s'en passer.
Mais alors moi, à l'inverse, souvent, enfin là, on se pose la question. Du coup, dans mon prochain livre, qui n'est pas du tout une fiction, qui est là où je me plus à nu de ma vie, c'est poser la question de est-ce qu'on met roman là pour une question stratégique de juridique. Donc tu vois, où d'un coup, en fait, le roman permettrait de protéger ça, mais aussi j'ai un éditeur italien qui avait mis roman parce que ça vend plus. Enfin, en fait, et le livre était un échec total, mausolée. Je pense qu'ils n'auraient pas du tout dû mettre roman, que ça a carrément desservi, parce que d'un coup, c'est roman d'amour. Donc, hyper cliché. Enfin, donc, c'est des catégories, effectivement, dont il faut user stratégiquement, je pense. Mais voilà, on en parlait. Je pense que dans le monde anglo-saxon, ils sont beaucoup plus libérés par rapport à tout ça.
On vous remercie sur ces derniers mots. Je crois qu'on peut vraiment vous applaudir chaleureusement.